Bonsoir à tous. Je vous invite à ouvrir la parole dans le psaume 4. Et on va lire un premier verset pour introduire ce message. Je ne pense pas que je vais vous apprendre grand-chose ce soir, mais la parole de Dieu, c'est comme la manne, c'est une nourriture. Et même si on la connaît déjà, le fait de s'en nourrir, ça fait du bien au cœur. Et dans le psaume 4, au verset 7, il y a une question qui est posée. Il est écrit, psaume 4, verset 7, « Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abondent leur froment et leur moût. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Amen. Ils sont beaux ces versets, mais ils commencent par une question. Cette question, c'est plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur ? Et je pense qu'à un moment de notre vie, on s'est tous posé cette question. Mais comment faire pour être heureux ? Comment faire pour être dans le bonheur ? Et vous savez, dans ce monde, s'il y a bien quelque chose qu'on cherche, c'est le bonheur, non ? On cherche le bonheur. Il suffit de regarder la télé, de regarder ce que font les gens. On voit très bien que tout est motivé par le bonheur. Certains cherchent le bonheur dans le travail, dans une activité. Certains pensent que s'ils ont un bon travail, s'ils sont bien occupés, qu'ils ont une bonne activité, il y aura du bonheur. Oui, ça peut apporter de la joie. Mais on voit que c'est pas suffisant. Certains cherchent le bonheur dans les richesses. Je pense que s'ils ont un compte en banque qui est plein à craquer, des maisons à droite à gauche, s'ils ont une, deux, trois, quatre, cinq voitures, quelques-unes de collection, ils seront heureux. Et pourtant, ça ne marche pas. Certains pensent qu'ils seront heureux s'ils sont reconnus, s'ils ont la gloire, s'ils sont au-dessus des autres. Et combien on peut voir de personnalités dans ce monde, de stars qui malheureusement mettent fin à leur jour. On voit que malgré le fait qu'ils ont tout, qu'ils ont la gloire, qu'ils sont connus, ils ne sont pas dans le bonheur. Ils ne sont pas dans le bonheur. D'autres cherchent le bonheur dans la famille, dans les relations, dans le couple, pensant qu'en ayant un conjoint, ils seront heureux. Puis après, comme ça ne marche pas, en ayant des enfants, ils seront heureux. Puis à un moment, comme ça ne marche pas, ils changent de conjoint et ils ne sont jamais heureux. D'autres cherchent le bonheur dans des loisirs. Si je rigole un peu, si je me détends, si... Il y a des choses de ce genre-là dans ma vie, alors je serai heureux. Et pourtant, ils ne sont toujours pas heureux. D'autres le cherchent dans la philosophie, dans une façon de penser. Vous savez, dans la philosophie, il y a eu plusieurs courants. Il y avait ceux qui s'appelaient les épicuriens. Eux, ils disaient, si tu laisses libre cours à tes plaisirs, alors tu seras heureux. Ça ne marchait pas. Puis il y avait les stoïciens. Si tu enlèves toute forme de plaisir, tu seras heureux. Ça ne marche pas non plus. La philosophie. D'autres cherchent le bonheur dans la religion, en se mettant des règles, en faisant ceci ou ne faisant pas cela pour avoir bonne conscience. Et pourtant, combien de personnes sont dans des religions et ne trouvent pas le bonheur ? Mais en tout cas, dans la Bible, on voit que cet homme, ou plusieurs en tout cas, se disaient, et ça peut être le cas aussi parmi nous, qui nous fera voir le bonheur ? Eh oui, qui nous fera voir le bonheur ? Et si on lit les psaumes, si on va dans le psaume 103, on voit qu'il y a un homme qui était heureux. Cet homme, c'était David. C'était David. Et on voit dans le psaume 103 un psaume où on voit quelqu'un qui est heureux. Et si on va ensemble lire ce psaume, c'est écrit qu'il est de David. Et David va commencer en bénissant l'Éternel. Il va dire, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » On voit un homme qui commence un cantique. Les psaumes, c'était des cantiques. À l'époque, c'était des textes qui étaient mis en musique. Et on voit que David a le désir, au travers de ce cantique, de faire quelque chose, de bénir l'Éternel. C'est-à-dire de dire du bien de Dieu. Hein, bénir, c'est dire du bien de quelqu'un. Maudire, c'est dire du mal de quelqu'un. Et au final, David a le désir de bénir l'Éternel. Il va dire « Mon âme bénit l'Éternel ». Et il va dire pourquoi ? Il va dire « Et n'oublie aucun de ses bienfaits ». David a le désir de bénir l'Éternel parce qu'il a eu des bienfaits. Des bienfaits, c'est quoi? C'est bienfait, faire du bien. C'est que l'Éternel lui a fait du bien. Et on voit un homme qui va avoir à cœur de dire de belles choses sur Dieu, sur l'Éternel, parce que Dieu lui a fait du bien. Et on voit dans ce psaume tout ce que l'Éternel a fait pour cet homme. Et on va regarder. Et notamment au verset 3, il va dire « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. » David est heureux, pourquoi? Parce que Dieu lui a pardonné toutes ses iniquités. Et c'est vrai que si on regarde la vie de David, objectivement, c'est pas un homme qui aurait dû être heureux. Vous savez ce que David a fait? On connaît le péché de David. David, c'est un homme qui, à un moment de sa vie, s'est gravement loupé. Et à cause de ce qu'il a fait dans sa vie, c'est pas un homme qui était censé être heureux. On le voit à un moment, c'était un roi, c'était le roi d'Israël qui marchait dans les voies de Dieu. Et puis un jour, alors qu'il aurait dû être à la guerre et qu'il n'y était pas, il va voir la femme de l'un de ses officiers se baigner. Il était sur sa terrasse, il n'arrivait pas à dormir, il voit cette femme, et puis un moment se renseigne sur elle, puis la fait venir, puis finalement couche avec elle. Il commet un adultère avec une femme qui n'était pas la sienne. Et au final, en plus de cela, il va apprendre que cette femme va tomber enceinte. Donc il va le faire revenir le mari de cette femme. Et il va essayer de bidouiller un peu, de faire en sorte que le mari croie que l'enfant était le sien. Et au final, ça ne va pas marcher. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va encore bidouiller et faire en sorte que cet homme qui l'a trompé, parce qu'en plus c'était son ami, soit tué au combat. Et puis à la fin, il récupère sa femme. On voit un homme qui a gravement péché. S'il y a bien quelqu'un qui aurait pas dû être heureux, c'était David, à cause de ce qu'il a fait, à cause de la culpabilité qu'il pouvait avoir. Mais pourtant, David va bénir l'Éternel. Et on voit, si on va voir un autre psaume, le psaume 32, on voit David qui va expliquer pourquoi il est heureux. On l'a lu dans ce verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et au psaume 32, on a le détail de ce verset. Parce qu'à un moment, David va composer un cantique qui parle justement du pardon. Et voilà ce qu'il va dire dans le psaume 32, au verset 1er. Il va dire « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » On voit que Dieu va dire que celui qui est heureux, c'est la question du départ, qui nous fera avoir le bonheur? David va dire qu'il est heureux, pourquoi? Parce que sa transgression est remise, parce que son péché est pardonné, et parce que Dieu ne lui a pas imputé son iniquité. Ça veut dire, en d'autres termes, aujourd'hui, parce que c'est vrai que le mot imputé, on le connaît, on l'utilise pas trop aujourd'hui, ça veut dire heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute, de son iniquité. Et au final, on voit que malgré les péchés, on peut être heureux. Et dans notre vie, la Bible dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et tout comme David a fait son péché, qui nous a été relaté, si on est honnête, on peut dire que nous aussi on a péché. Est-ce que vous êtes jamais loupé? Qui ne s'est pas loupé? Qu'il me jette la première pierre. En tout cas, moi je reconnais que je me suis loupé, bien des fois. Mais est-ce que parce qu'on s'est loupé, est-ce que parce qu'on a fait le mal, ça veut dire qu'on est condamné à ne plus jamais être heureux? Non. Ce texte nous enseigne que malgré nos péchés, on peut être heureux. Pourquoi? Parce que Dieu pardonne le péché. C'est ce que David a vécu. Il va dire au verset 3, « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, et je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » On voit par contre que avant qu'il soit heureux, il y a une période pénible, où il va dire que à un moment, ses os se consumaient. À cause de ce qu'il avait fait, c'était comme un feu à l'intérieur de lui. Il n'était pas tranquille, il n'était pas en paix, parce qu'il y avait, on va dire, le feu de la culpabilité qui était allumé. À un moment, il nous a dit que sa vigueur n'était plus que sécheresse. Vous savez, des fois, il y a des personnes, elles sont fatiguées, non pas parce qu'elles n'ont pas de force physique, elles sont fatiguées à cause de ce qui les ronge à l'intérieur. Vous voyez cette image? Ça ronge. Il y a quelque chose que l'on a fait. Et c'est tout le temps là, c'est comme un poids. Et à un moment, c'est même dit, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. À un moment, il nous a dit, c'est comme si la main de Dieu s'appesantissait. Et c'est vrai, quand on a fait le péché, quand on sait qu'on est coupable, il y a comme ce poids sur notre vie, cette condamnation, cette culpabilité. Et c'est ce qu'avait vécu David. Et pourtant, il commence en disant juste le verset plus tôt, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité ». Mais pourtant, à un moment, il souffrait de son iniquité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il est écrit à la fin du verset 4, « Pause ». C'est-à-dire qu'il a parlé d'une première chose. Il y a un premier temps, c'est le temps du péché. C'est quand on pêche et qu'on souffre. Mais à partir du verset 5, voilà ce qu'il va dire. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. » On voit qu'à un moment, oui, il a péché, mais il a fait quelque chose. Il a confessé son péché à Dieu. Il va dire, je t'ai fait connaître. Et vous savez, quasiment tout le monde sait que Dieu sait tout. À un moment, ce midi, on méditait sur le psaume 139, on voit qu'il écrit que Dieu voit tout. À un moment, Dieu sait quand on se lève, quand on se couche, il sait ce qu'il y a dans nos pensées, il sait le nombre de nos jours avant qu'aucun d'eux n'existe, il sait ce qui se passe dans les ténèbres, c'est écrit que les ténèbres sont lumière pour lui, il sait tout, il voit tout, il sait même l'avenir. Mais c'est une chose de savoir que Dieu connaît, c'en est une autre de dire à Dieu, de faire connaître à Dieu nos péchés. Vous savez, des fois on peut pécher, on n'est pas bien, mais on va garder ça pour nous-mêmes. Alors ce qu'a fait David, c'est qu'il a confessé son péché. À un moment, il y a un texte qui est écrit dans le Proverbe au chapitre 28 et verset 13, où il est écrit que celui qui cache une transgression ne prospère pas, mais celui qui l'avoue et qui la délaisse obtient miséricorde. Et au final, pourquoi David a été heureux? C'est parce que lorsqu'il a été confronté à son péché, il s'est humilié. Il a dit, c'est vrai. Et il a avoué son péché à l'Éternel. Vous savez, être convaincu de péché, c'est une chose. Savoir qu'on a fait le mal, c'est une chose. Puis il suffit de regarder un petit peu sa vie, être honnête, réfléchir à la journée qu'on a passée, et on va vite se rendre compte qu'effectivement, on est pécheur. Mais le confesser à Dieu, c'est autre chose. C'est autre chose. Et c'est ce que David a fait. Il a dit, je t'ai fait connaître, j'avouerai. Vous savez, avouer, c'est quoi? Avouer, c'est un moment où on dit non, c'est pas vrai, alors que c'est vrai. Puis un moment où on avoue. Vous savez, c'est comme les enfants. Est-ce que c'est toi qui as cassé le jouet? Non. Est-ce que c'est pas toi? Et puis un moment, il dit, si, c'est moi. Et puis il pleure, etc. Vous voyez? Il y a le fait d'avouer. Et il y a une différence entre savoir qu'on est pécheur et avouer à Dieu qu'on est pécheur. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et là, il y a la clé. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on dit à Dieu le mal que l'on a fait? Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on avoue, que l'on confesse son péché? Il va dire, et tu as effacé la peine de mon péché. Pourquoi il était heureux? Parce que sa peine a été effacée. Et c'est ça la beauté de la grâce. C'est que malgré le fait que l'on soit pécheur, malgré le fait que l'on souffre à cause de notre péché, on peut être heureux. Parce que lorsque l'on confesse à Dieu notre péché, il prend la peine. Alors pourquoi il prend cette peine? Pourquoi est-ce que, au final, le fait que l'on ait fait le mal, on puisse recevoir la paix? Bah, tout cela, on le comprend, c'est à cause du sacrifice de Jésus. À un moment, il nous a dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pourquoi est-ce que ma peine peut être effacée? Parce que c'est Jésus qui a eu la peine de mon péché. C'est Jésus qui a souffert à cause de mon péché. Et lorsque je confesse à Dieu mon péché, il ne va pas me traiter selon mes iniquités, c'est ce qu'on va lire tout à l'heure dans le psaume 103, mais c'est Jésus-Christ qui a été traité selon mes iniquités. Dans le début de ce psaume, il est dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité ». Ben oui, mais l'iniquité, le prix de nos péchés, a dû quand même être payé. Et il a été payé par Jésus-Christ. Et lorsque l'on a compris ça, lorsque l'on accepte ça, lorsqu'on le met en pratique, en confessant son péché, mais aussi en recevant par la foi ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix, alors on est heureux. Même si on n'a pas de travail, on est heureux. Même si on n'a pas de conjoint, on est heureux. Même si on n'a pas les richesses, même si on n'a pas la gloire, même si on n'a pas toutes ces choses, on peut être dans le bonheur parce que l'on est pardonné de ses péchés. Et parce que l'on sait que ce qui nous attend, c'est la gloire éternelle. Ce qu'il nous attend, ce n'est plus le châtiment, mais ce qui nous attend, c'est la gloire de Dieu. Tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. Je t'ai fait connaître mon péché. Au verset 6, il va dire « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. » Et là, c'est étonnant. Que tout homme pieux te prie ainsi au temps convenable. Donc on pourrait dire « Non, mais la piété, c'est pas péché. » Un homme pieux, c'est un homme qui pêche pas. C'est ce qu'on pourrait dire. Mais là, il est dit que l'homme pieux, c'est celui qui prie ainsi au temps convenable. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que l'homme qui veut être pieux, et je pense que dans ce lieu, on veut être pieux, c'est pas celui qui se loupe jamais. L'homme pieux, c'est celui qui, lorsqu'il se loupe, va reconnaître sa faute, s'humilier devant Dieu, confesser son péché à Dieu et croire au pardon de Dieu. Car le sang de Jésus nous purifie de tout péché et de toute iniquité. À un moment, l'apôtre Jean va dire « Mais celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Mais celui qui les confesse devant Dieu, il obtient miséricorde. » Parce que devant Dieu, on n'a pas un juge, on a un avocat, et cet avocat, c'est Jésus-Christ. C'est ça, la beauté de la grâce. C'est faire connaître le péché. À un moment, dans ce psaume 32, il va dire, lorsqu'il dit « heureux, heureux, heureux », il dit au verset 2 « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Eh oui. Parce que ça veut dire que s'il y a de la fraude dans notre cœur, on ne sera pas heureux. C'est quoi frauder ? C'est tricher, ouais. Frauder, c'est tromper. C'est cacher quelque chose. Vous savez, des fois on dit « il a fraudé le fisc ». C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il n'a pas tout déclaré. Eh oui, il n'a pas tout déclaré. Et des fois, vous savez, il y a des fraudeurs spirituels. Ils ne déclarent pas tout. Ils déclarent certaines choses à Dieu, mais ils n'ont pas tout déclaré. Vous voyez ? C'est partiel. C'est pas entier. Hein, un moment, David dira dans un autre psaume, « Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais pénétrer la vérité au-dedans de moi. » Le contraire de la vérité, c'est quoi ? C'est la fraude. La vérité, c'est tout dire. La fraude, c'est cacher une partie. Et au final, vous savez, certains ne sont pas complètement heureux parce qu'ils n'ont pas tout dit au Seigneur. Mais lorsque l'on dit tout ce que l'on a dans le cœur, alors le bonheur est parfait et il est entier. Et des fois, on a dit au Seigneur certaines fautes que l'on a faites, mais pas d'autres. Parce que celles-là, on en a trop honte. Mais au contraire, c'est justement quand on déballe tout, dans la façon de parler, au Seigneur, qu'alors on a un cœur qui est tout entier à lui. Si on retourne au psaume 103, donc on en était au verset 3, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Et pourquoi David était heureux ? Parce que l'Éternel guérit toutes ses maladies. Et vous savez qu'il y a les maladies physiques dont Dieu guérit encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, il y a des dons de guérison. Et ce que Jésus faisait du temps où il était ici-bas sur terre, il le fait aujourd'hui par son Esprit Saint. Et n'importe qui peut être guéri de ses maladies physiques. Parce que la Bible nous dit, dans Ésaïe 53, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et lorsqu'on a besoin d'une guérison, ben le Seigneur veut la donner. Mais il y a aussi les maladies du cœur à l'intérieur, vous savez. Et toujours pareil, des fois c'est à cause du péché, mais il y a d'autres types de maladies qu'on peut avoir dans le cœur. On peut être atteint par le découragement. On peut être atteint par le doute. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre encore comme maladie du cœur ? La tristesse, la mélancolie, l'amertume, le fait de repenser aux choses du passé, à qui pourtant Dieu nous a déjà pardonné, mais ça revient. On peut avoir toutes sortes de... On peut avoir l'agitation intérieure. Il peut y avoir toutes sortes de... On peut aussi être malade parce qu'on a été blessé. Parce que des fois, le cœur, il peut saigner parce qu'on a fait une bêtise, nous. Mais des fois, le cœur, il peut saigner parce qu'on nous a fait du mal. Combien de personnes sont troublées dans leur vie aujourd'hui parce que, non pas qu'elles aient été coupables, mais parce qu'on leur a fait du mal. Et parce qu'on leur a fait du mal, il y a des troubles qui font que ça rejaillit sur leur vie dans le présent. Des enfants abandonnés, des enfants battus, des enfants violés, des enfants, etc. Il y a des gens qui vivent des choses terribles et ces choses font qu'ils sont malades. Pas qu'ils l'aient voulu, qu'ils soient coupables, mais parce qu'ils ont subi des choses. Mais la Bible nous dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Et même si le cœur peut être blessé, même si le cœur peut être malade, Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour des gens qui se portaient bien, mais qu'il est venu pour les malades. Et vous savez, quelles que soient les blessures qu'on peut avoir subies dans notre vie, et plus on est proche de quelqu'un, plus ça fait mal, hein, généralement les blessures. Dieu est capable de guérir. Et peut-être que c'est ce que quelqu'un a besoin d'entendre ce soir, c'est que Dieu veut guérir ton cœur qui est blessé. Et ce n'est pas parce qu'il a été blessé que ça veut dire que c'est trop tard ou que c'est trop blessé. Dieu peut guérir les cœurs. C'est écrit qu'il guérit les cœurs brisés. Brisés. Alors il y a brisé en deux morceaux, puis il y a certains cœurs, ils sont brisés en mille morceaux. Mais qu'importe la blessure, il guérit toutes tes maladies. Et quelqu'un peut saisir par la foi la guérison de son cœur. Vous savez, des fois, la psychologie nous dit qu'il faut... toute la psychologie n'est pas mauvaise. Mais la psychologie a tendance à nous dire qu'il faut connaître ce qui a cassé le cœur pour qu'il puisse être guéri. Et une fois qu'on a identifié la cause du mal, alors on suit un chemin pour guérir. C'est pas ce que je lis. Moi, je lis que Dieu guérit toutes les maladies. Vous savez, des fois, juste s'approcher du Seigneur, venir dans sa présence, il peut mettre sa main sur nous, nous guérir, et au final, sans qu'on sache vraiment ce qui s'est passé, on peut repartir dans la paix, dans la joie, et heureux. On n'a pas forcément besoin de savoir ce qui nous fait mal. Mais par contre, on peut venir prendre le remède. Le remède, c'est de venir à Jésus-Christ. C'est lui qui a été meurtri pour nous. Au verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Eh oui, de la mort. Et vous savez que si Dieu nous délivre de la fosse, c'est parce que c'est lui qui y est allé. Et si nous sommes délivrés de la mort éternelle, du châtiment de tous nos péchés, c'est parce que c'est lui qui a accepté de prendre le châtiment sur lui-même, et c'est lui qui est allé au tombeau. Mais gloire à Dieu, 3 jours après, il est ressuscité. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui sont pardonnés de leurs péchés, tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'à un moment donné, les morts en Christ ressusciteront. Et vous savez, il nous délivre de la mort, de la fosse. Et vous savez, la Bible nous dit que pour le juste, la mort est un gain. Mais quelle grâce de savoir que le jour où je meurs, j'ai pas perdu, j'ai tout gagné. Quelle grâce. Mais cette grâce-là a eu un prix, c'est que Jésus aille au tombeau. Et au final, s'il est allé au tombeau, c'est parce que c'est nous qui devions y aller pour l'éternité. En enfer. Mais finalement, c'est lui qui a vaincu la mort et qui nous a donné cette victoire. Oui, on peut dire que c'est lui qui délivre notre vie de la fosse. Mais plus que ça, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Quelle grâce! Il nous couronne. Nous qui étions des pécheurs, qui méritions couronne d'épines, hein, je pense qu'on n'aurait pas mérité mieux comme couronne. Il nous couronne de bonté et de miséricorde. Mais pourquoi est-ce qu'on a cette couronne-là? Parce que c'est lui qui a accepté de prendre la couronne d'épines. Et si on peut avoir ces régner dans la bonté, dans la miséricorde, hein, parce qu'une couronne, c'est à ceux qui règnent qu'on la donne. Si on peut avoir autorité dans la bonté, en étant bon et en étant miséricordieux, c'est parce que lui, il a accepté de s'abaisser et de prendre cette couronne d'épines et ce roseau pour sceptre. C'est lui qui a accepté ces choses-là, qui a été couronné d'épines pour que je sois, moi, couronné de gloire. Verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Quelle grâce! David était heureux parce qu'il savait que Dieu pourvoit. Et Dieu n'est pas un Dieu qui laisse ses enfants à l'abandon, c'est un Dieu qui pourvoit. Et vous savez que Dieu a dit de ne pas s'inquiéter pour le vêtement, pour le manger, pour le boire. Il a dit ça, c'est les païens qui s'en occupent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quelle grâce de savoir qu'au final, je ne manquerai jamais de rien, à partir du moment où je reste en Jésus. Alors c'est sûr, des fois on passe par des chemins où on a cette impression qu'on va manquer. Mais ça, c'est l'épreuve de la foi. La Bible nous dit que c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Pour ceux qui prennent des notes, ça on peut aller voir dans Ésaïe au chapitre 40, la fin du chapitre, où on voit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne se lassent pas. Si on va au verset 10, c'est ce que l'on a lu tout à l'heure. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Quelle grâce! Hein? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Et oui. Et là, on peut encore penser à Jésus-Christ qui a traversé les cieux pour venir sur cette croix. Et c'est vrai, autant les cieux sont élevés de la terre, autant la distance entre nous et Dieu était grande, autant sa bonté a fait qu'il est venu et qu'il a traversé les cieux pour mourir sur la croix. Alors ce soir, au final, on peut se poser cette question. Est-ce que je suis heureux? Et si je ne le suis pas, mais pourquoi je ne le suis pas? Est-ce que c'est parce que je garde un péché? Et au final, c'est moi-même qui me prive du bonheur parce que Dieu veut me le donner. Est-ce que c'est parce que je suis malade et que j'ai besoin de saisir une guérison du Seigneur? Bah, vous pouvez la saisir ce soir par la foi. Est-ce que c'est parce que je m'inquiète pour ma vieillesse, pour les jours qui viennent? Mais il n'y a pas à s'inquiéter. Il suffit de croire que le Seigneur prendra soin de vous et il le fera. Il l'a promis. S'il a donné son Fils pour nous alors qu'on était pécheurs, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas toute chose avec lui, maintenant qu'on est réconcilié avec lui? Est-ce que j'ai peur de la mort? Mais mon frère, ma sœur, la mort c'est un gain. On a tout gagné lorsqu'on meurt en Christ. Etc. En tout cas, je crois que ce soir, on peut tous, en nous approchant du Seigneur par la foi, repartir dans le bonheur. Qui nous fera voir le bonheur? C'est Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette soirée, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour la grâce qu'il y a de pouvoir nous confier en toi. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Parce que oui, si nous pouvons être déchargés de la peine de notre péché, c'est parce que toi, tu t'en es chargé, Seigneur. C'est parce qu'à la croix, tu as accepté de souffrir et de payer le prix de nos péchés. Et Seigneur, ton châtiment nous donne la paix. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, tu nous vois devant toi et tu sais ce que chacun d'entre nous a besoin. Et Seigneur, selon ta promesse, tu dis que tu es le Dieu qui pourvoit, que tu puisses pourvoir aux besoins de chacun de mes frères et sœurs qui sont présents ce soir, dans ce lieu. Merci pour la paix, merci pour ta parole qui est cette nourriture pour notre âme qui nous fait du bien, qui est ce baume qui apaise. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est ce roc qui brise aussi les duretés de notre cœur, ce marteau plutôt. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses. Et que toute la gloire te revienne, parce que oui, si nous pouvons être heureux, ce n'est pas parce que nous le méritons, mais c'est parce que tu nous le donnes, Seigneur, le bonheur. que ton nom soit béni. Amen.